Ce soir, on continue la série d'études sur les dons que le Seigneur nous a donnés. Puis, on va voir le don ce soir. C'est un don qui est très utile pour l'œuvre de Dieu. C'est un des cinq ministères que Dieu a donné à son Église, qui sont des gens qui sont équipés d'un don spécial pour être comme un ancien dans l'Église, premièrement, mais pour être quelqu'un d'utile dans ce don-là, parce que chaque don que Dieu donne, c'est important. Puis, il faut réaliser que on est appelé à prier Dieu et à lui demander de nous accorder ses dons. Que ce soit les dons spirituels, les dons de service ou les dons de ministère, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier, mais ça fait partie de ce que Dieu veut nous donner. Il veut équiper des gens avec tout cela. Puis il faut le demander, il faut y prier, il faut y demander qu'il nous amène à devenir, à être comme ça. Mais il y a un bas de l'échelle, on commence au bas de l'échelle, on va voir que le ministère qu'on va étudier ce soir, que même un simple disciple qui n'a pas le ministère peut faire ce job-là. On n'est pas obligé d'avoir un ministère pour pouvoir commencer à le pratiquer. C'est ce que je veux dire. C'est un don très utile, le don qu'on va voir ce soir, pour répandre la parole de Dieu puis sauver des âmes. Je sais qu'il y en a qui ont, ont une onction spéciale, c'est Dieu qui les a équipés de ça, de ce don-là, pour pouvoir gagner des âmes pour Jésus. C'est leur spécialité. C'est des gens qui ont une habilité de répandre la parole, puis de jaser avec les personnes. Puis quand ils jasent avec les personnes sont touchées, puis les personnes sont prêtes à faire la prière pour accepter Jésus. Ce don-là, ça s'appelle le don d'évangéliste. C'est d'avoir le don de pouvoir partager l'Évangile avec une facilité là, qui fait que t'en parles, le monde écoute, le monde sont touchés, puis le monde accepte le Seigneur facilement. On a vu la deux semaines que les apôtres, en tant que le ministère, c'était implanter des nouvelles églises un peu partout, c'est de former des nouvelles églises. Eux autres aussi, ils faisaient ça d'évangéliser de ville en village. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut ouvrir des églises à quelque part, mais il faut qu'il y ait du monde qui parle de Jésus aux habitants de cette ville-là. Fait que la job d'un apôtre, c'est d'évangéliser puis d'implanter des églises. Puis on a vu ça comme un verset qu'on va voir, c'est dans Actes 14, 21. Ça nous parle des apôtres. Il dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, ils ont fait un certain nombre de disciples, puis là, ils retournèrent à l'autre place. Donc, on voit que la job des apôtres, c'était de rentrer dans une ville, d'évangéliser la ville, faire un certain nombre de disciples, puis là, ils pouvaient implanter un groupe de prière ou une église maison ou une église, s'il y a beaucoup de personnes, avoir un local, etc. Mais, il y a aussi les évangélistes qui évangélisent. C'est pas juste les apôtres qui évangélisaient. Les évangélistes, c'est des gens qui sont spécialisés dans l'évangélisation. Ils ont le don d'amener les âmes au Seigneur. C'est un don spécial, ça, quand tu es rendu un évangéliste. Tu vas prêcher dans des salles, puis tu vas toujours expliquer les choses de base qui fait que les gens comprennent le message du salut, puis tu fais un appel à la repentance, puis il y a toujours du monde qui accepte le Seigneur. On voit ça que ça s'est en œuvre dans les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes, dans Actes 8, 12. Ça nous parle d'un personnage qui s'appelle Philippe. Philippe, c'est un évangéliste, on va le voir dans un autre verset. Puis ça nous dit, quand ils eurent cru à Philippe, Philippe était rentré dans une ville, puis là, il évangélisait. Il parlait du Seigneur. Quand ils ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Fait que ce gars-là, il avait comme une onction sur lui. Lui, c'était un des diacres qui avait été choisi au début de l'Église des Actes des Apôtres. Ils ont choisi sept diacres, puis lui, ça en était un, c'était un homme rempli du Saint-Esprit, puis il aimait évangéliser. Puis on voit dans un peu plus loin, dans Actes 21, 8, je vais vous lire tout de suite, que Philippe, c'est le premier qui a été nommé évangéliste. C'est le premier qui a été nommé évangéliste dans la Bible. Ça nous dit dans Actes 21, 8, « Nous partîmes le lendemain, puis nous arrivâmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Fait que c'était un des sept qui avait été choisi pour être diacre, qui était rempli du Saint-Esprit, mais c'était un gars versé dans l'évangélisation. C'était le premier qui était appelé évangéliste. Puis, ça nous dit, comme là, quand il était rentré dans une ville, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, puis le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, ça, son message, il portait toujours autour la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'on peut être pardonné de nos péchés parce que Jésus a tout accompli en mourant sur la croix. C'est ça, la bonne nouvelle. Le mot « bonne nouvelle » veut dire « évangile ». La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix. Fait qu'un évangéliste, ça fait quoi? Ça annonce l'évangile, ça annonce la bonne nouvelle. Sa spécialité, c'est de parler des choses de base sur le salut, puis d'expliquer le salut aux gens. Fait que quand il arrivait dans une ville, comme dans cette ville-là, ça nous dit « hommes et femmes se firent baptiser ». On voit que quand les personnes acceptaient Jésus comme leur sauveur personnel, ils se faisaient baptiser d'eau. Puis là, on donne pas un cours sur le baptême ce soir, mais j'avais dit qu'il y aurait des versets qui parleraient du baptême. Le baptême, c'est se faire tremper dans l'eau au complet. Le mot baptême veut dire immersion. C'est pas aspersion. C'est pas recevoir 2-3 gouttes sur la tête. C'est de se faire caler dans le fond de l'eau, sortir de l'eau, être immergé. Puis ça a un symbole. Ça l'explique qu'on s'engage à suivre Jésus-Christ. Ça l'explique aussi qu'on est né de nouveau, qu'on est mort à nous-mêmes, qu'on a décidé d'accepter Jésus, qu'on l'a reçu, puis que là, une nouvelle vie est commencée. C'est comme si tu es enseveli dans la terre, puis tu ressuscites en nouveauté de vie quand tu sors de l'eau. C'est un symbole. Puis Dieu nous appelle à ce que quand on reçoit le message de l'Évangile, à ce qu'on accepte à se faire baptiser. Fait que ça nous dit que Philippe est rentré dans une ville, il a parlé de la bonne nouvelle puis du message de Jésus-Christ, puis hommes et femmes se faisaient baptiser. Il y avait une onction pour se faire baptiser, pour faire des disciples, pour aller sauver des âmes. L'évangéliste, il fait partie des cinq ministères, puis c'est un don qui est spécialisé pour aller évangéliser puis sauver les âmes, puis amener des âmes à Jésus. On voit ça dans les cinq dons, dans les cinq ministères, qu'on voit dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les évangélistes, les pasteurs, puis les docteurs. Fait que là, on est rendu au troisième des dons qu'on est en train d'expliquer, c'est le don d'évangéliste. Ces ministères-là d'évangélistes, ils sont donnés pour accomplir la grande commission. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, la grande commission? Qu'est-ce qu'on veut dire par la grande commission? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Oui.
C'est la commission de Dieu.
Oui. C'est exactement ça, c'est la définition. On appelle ça la grande commission, c'est parce que c'est Jésus qui l'a donné, cette commission-là. Quand il a donné les ordres à ses apôtres avant de partir. Il y a deux passages qu'on voit particulièrement, un dans Matthieu puis un dans Marc, qui nous parle de Jésus qui est en train de parler à ses disciples avant qu'il s'en aille. Quand il est dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus il a déjà été mort, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Puis pendant qu'il les apparaissait, il les expliquait des choses. Puis une des dernières choses qu'il a mentionné à ses disciples, ça dit, Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus t'a rendu le Tout-Puissant après sa résurrection. Là, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, vois-tu, on voit encore le baptisant, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fait que dans ce passage-là, Jésus les a envoyés, puis il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, il faut que la bonne nouvelle soit répandue parmi toutes les nations. Puis faites-en des disciples, puis enseignez-leur. Puis là, dans l'autre passage qui est parallèle, parce que c'est un autre évangile, mais c'est dans le même temps qu'il a dit l'autre phrase, il a dit ça aussi dans Marc 16, 15, on lit, Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Là, on voit, il dit encore, allez par tout le monde. Tantôt, il a dit prêcher à toute la création, à toutes les créatures. Mais aller par tout le monde, ça veut dire la même chose. Allez le dire à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils doivent aller dire? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et quoi la bonne nouvelle? Je l'ai dit tantôt.
On est sauveur dans le ciel, qui s'appelle Jésus.
Jésus a payé la dette de nos péchés. C'est ça qui est la bonne nouvelle. On peut être pardonné gratuitement. On a juste à l'accepter, puis à le recevoir, là, c'est un cadeau-là que Dieu nous offre. C'est un cadeau gratuit, pas parce que c'est un cadeau qui est trop cheap, qui vaut pas rien, non. C'est parce que ça coûtait trop cher pour l'avoir. Impossible qu'on puisse l'obtenir. Fallait que quelqu'un vienne payer à notre place pour qu'on puisse l'avoir. C'est à quoi le cadeau? Avoir le pardon de nos péchés pour entrer dans la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle, c'est extraordinaire. On peut avoir l'assurance qu'on s'en va au ciel. C'est un cadeau gratuit à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Tout le monde sait, la plupart de tout le monde sait quand on leur en parle, qu'ils ont des péchés. Tout le monde est conscient qu'ils ont des péchés, qu'ils ont fait des péchés. Ces péchés-là les empêchent d'entrer au ciel. Faut que ça soit réglé, cette histoire-là. Faut que la personne le reçoive, le pardon de ses péchés. Pour le recevoir, il faut qu'elle reçoive Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Il faut qu'elle l'accepte, puis qu'elle s'engage à le suivre, puis le Seigneur pardonne ses péchés, il va lui donner le Saint-Esprit, il va écrire son nom dans le ciel, c'est ça la bonne nouvelle. On est là pour partager, « Hey, tu peux aller au ciel, puis c'est gratuit, Jésus a tout payé. » C'est ça la bonne nouvelle. Fait que là, il a envoyé ses apôtres aller porter cette bonne nouvelle-là à toutes les créatures qui vivent sur cette terre. Là, ils sont plus là, les apôtres. C'est qui fait le job aujourd'hui?
Faut que ça soit nous autres.
Faut que ça soit nous autres. Les apôtres reviendront pas faire la job à notre place. Fait que là, on a encore une grande mission parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entendu parler. Il y en a qui n'ont déjà entendu parler. Puis on va leur en parler encore parce que il faut le répéter, ce message-là. Moi, ça a pris un an à ce que je l'accepte comme mon sauveur. Si je poserais la question à chacun de vous, il y en a qui l'ont accepté la première fois qu'ils l'ont entendu parler, il y en a d'autres, c'est un an après, il y en a d'autres, c'est 20 ans plus tard qui ont accepté Jésus, fait qu'ils l'ont entendu souvent. Le point est, on n'a pas le droit de dire aux personnes, « Toi, ça fait assez longtemps tu l'as entendu, je veux plus t'en parler. » Non. Tant qu'une personne n'a pas encore accepté, faut utiliser chaque occasion pour leur parler de Jésus.
Ça fait 16 ans que je n'entends pas parler.
Ah, ouais? L'as-tu accepté? Gloire à Dieu! Après 16 ans, il a accepté. Non, pas 16 ans. Là. Ça fait déjà un bout que tu l'as accepté. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il est obligatoire qu'il y ait des personnes qui soient envoyées et soutenues pour prêcher le plan du salut. C'est obligatoire. Pourquoi que c'est obligatoire qu'il y ait des gens qui soient soutenus dans prière, puis soutenu financièrement s'il faut, pour qu'il y ait des gens qui répandent la parole de Dieu sans arrêt. Pourquoi que c'est important que ça soit comme ça?
Parce que le combat, c'est pas le combat d'un, c'est le combat de tous. Pour que les gens soient soutenus dans les prières, monétairement, puis spirituellement.
Oui, mais parce que c'est pourquoi qu'il faut comprendre qu'il y ait des gens qui soient à plein temps à répandre le message de l'Évangile? Tout simplement parce que si les gens ne l'entendent pas, ils peuvent pas être sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen que croire en Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Les gens sont tous en train d'accomplir des religions. La religion ici, religion ça. Les religions ne sauvent personne. Dieu a décidé de sauver le monde par son Fils. C'est pour ça qu'il est important d'aller prêcher l'Évangile puis de lui dire, Arrêtez de penser que vous êtes bon et que vous êtes sans péché, ou arrêtez de croire que c'est votre religion qui va vous sauver. C'est Jésus seul qui peut vous sauver. Puis là, on voit dans Romains 10, le verset 14, qui nous explique ça. Il dit, comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à comprendre et à croire s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Faut qu'il y ait des prédicateurs qui sont envoyés pour prêcher, pour leur dire, croyez en Jésus. Toutes les méthodes sont bonnes pour répandre la parole de Dieu. Que ce soit des pamphlets qui expliquent le plan du salut, que ce soit dit de bouche à oreille, que ce soit annoncé par la radio, par la télévision, par l'Internet. L'important, c'est que le monde entende parler de Jésus, puis qu'il soit en connaissance de cause, et dire, je suis pécheur, Jésus est mort pour pardonner mes péchés, je l'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur, puis je veux être sauvé moi aussi, fait que là, il l'accepte, puis le Seigneur, il pardonne ses péchés, il donne le Saint-Esprit, puis la personne va être sauvée, après ça, elle a juste à joindre une église pour apprendre la parole de Dieu, après ça, elle-même va pouvoir aller travailler à sauver les autres personnes. C'est un groupe qui travaille à sauver les autres personnes. Il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il est important qu'on réalise que c'est le devoir de l'Église de soutenir des personnes dans la prière, puis dans financièrement, pour qu'il y ait des évangélistes qui répandent la bonne nouvelle, qui partent, puis qui répandent la bonne nouvelle à plein temps. Il y a des milliards de personnes sur la terre qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Même si on fait un site Internet, puis qu'il y a 8000 personnes par mois qui viennent l'écouter, c'est quoi 8000 sur les milliards qui ne l'ont pas entendu? Il y a bien des personnes là-dedans qui n'ont pas l'Internet. Fait que l'Internet, c'est bon pour atteindre ceux qui sont sur l'Internet. Puis il y a la radio pour atteindre les villages où la radio est installée. Puis le porte-à-porte pour aller voir les gens avec des pamphlets ou parler avec les gens. Il faut y aller. Ça fait partie de la grande commission que Jésus a demandé. Puis je suis sûr, quand on va arriver à l'autre bord, il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait de notre temps. Est-ce qu'on y était? Est-ce qu'on était préoccupé à notre confort passager ou on était préoccupé à sauver ces âmes-là qui s'en vont dans les temps de feu parce qu'ils sont sans Jésus? Fait qu'il est important qu'il y ait des personnes envoyées et soutenues. Un évangéliste, là, il aime parler de l'Évangile. C'est ça, sa caractéristique. Il aime parler de Jésus. Puis en parlant de Philippe, là, il parlait du Seigneur partout ce qui passait. On voit ça dans Actes 8, 40. Philippe se trouva dans Azote, où il allait, jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous, aujourd'hui, quand on se rend dans une ville, on prend notre auto, on parle pas à personne tout le long, puis on se rend à l'autre place. On n'a pas parlé à personne, parce que notre transport, il est isolé dans une boîte de métal qui roule 100 km heure. Eux autres, dans ce temps-là, ils se promenaient à pied ou à dromadaire ou en chameau. Ils se promenaient à pied, puis partout ce qui passait, ils rencontraient d'autres mondes à pied, puis ils parlaient de Jésus partout. Où ce qu'il passait, dans chaque ville qu'il traversait, dans les campagnes, il parlait de Jésus sans arrêt, puis il y avait des âmes qui étaient sauvées partout. Puis une caractéristique aussi que les gens qui sont évangélistes, une caractéristique que Dieu leur donne, il y en a des évangélistes qui l'ont pas, mais il y en a des évangélistes qui l'ont, c'est qu'ils ont le don de guérison que souvent ça l'accompagne un évangéliste. Que ces évangélistes-là vont prier pour les malades, puis il y a souvent des personnes guéries. Ça, c'est comme si ça met un plus. Tu parles de Jésus, tu pries pour les personnes, puis les personnes sont guéries. mais ça encourage les gens à croire encore plus en Jésus. C'est pour ça qu'il est important, si on veut faire l'ouvrage d'aller évangéliser, de demander à Dieu de nous exaucer nos prières pour nous donner le don de guérison, pour pouvoir voir plusieurs guérisons. Nous en voyons de temps en temps des guérisons, mais on pourra en voir plus encore. On voit ça dans Actes 8, 5. Ça parle encore de Philippe. Philippe, il en parle pas mal dans les Actes. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Fait que, il aimait parler de Jésus. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Des foules entières se rassemblaient et étaient attentifs. Ils écoutaient Philippe quand il prêchait. Puis lorsqu'il apprit et virent les miracles qu'il faisait, c'était une personne qui priait Dieu, puis Dieu l'exauçait. Puis il voyait souvent des guérisons, puis le monde était tout étonné de voir, il y a des guérisons qui se passent, puis quand il parlait, tout le monde était attentif à écouter ce qu'il disait. Parce que là, il nous en explique, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. » Puis il y a eu une grande joie dans cette ville. Mais on voit que même Étienne, rempli d'Esprit Saint, vivait, il faisait des miracles, lui tout. Les apôtres, remplis du Saint-Esprit, faisaient des miracles, eux autres aussi. Dieu prend plaisir de faire des miracles pour accompagner le message de l'Évangile. Fait qu'on voit qu'il y a, des évangélistes qui sont accompagnés du don de guérison, puis il y en a d'autres des évangélistes qui l'ont pas, ce don-là, puis qui sauve des âmes quand même. La preuve, nous connaissons Billy Graham. Billy Graham n'était pas réputé pour un ministère de guérison, où c'était à plein de guérisons, mais était réputé pour des centaines de milliers de personnes qui ont accepté Jésus-Christ suite à sa prédication. Il a prêché devant des foules là qui avaient plus de 1 million de personnes debout devant lui. Il y avait peut-être 50, 100 000, 200 000 personnes qui acceptaient Jésus dans la même soirée. Statut extraordinaire. C'est sûr que ça serait hot. Mais pour dire qu'il y en a des gens qui ont des... c'est pas qu'ils ont eu bien des miracles dans leur ministère, mais ils ont vu beaucoup de personnes, c'est-à-dire un évangéliste, Billy Graham, puis il a sauvé des millions de personnes. C'est pas lui qui les a sauvés, mais sa prédication a amené des gens à ce qu'ils se donnent au Seigneur par milliers et par des centaines de milliers. Dans toute sa vie, il a prêché, je pense, plus de 50 ans de temps, puis il faisait des croisades d'évangélisation quand 200 000 personnes, 500 000 personnes, 2 millions de personnes. Il prêchait à la télévision, chez la radio, ça je le sais pas, mais c'est un ministère qui a ramassé plein de brebis pour le Seigneur. Mais il n'y a pas de mérite plus qu'un autre, parce que c'est Dieu qui fait là. C'est Dieu qui donne son don. Malgré tout ça, la date là, qu'on est en train de voir ce qu'un évangéliste peut faire pour comprendre l'évangéliste, ça peut arriver que des évangélistes ou même des chrétiens qui ont l'appel d'évangéliser, qui se refroidissent dans leur vision d'aller évangéliser. On en voit un dans la parole de Dieu que Paul a encouragé, on en a parlé une couple de fois, c'est Timothée, il s'était refroidi. Puis il a besoin d'un encouragement de Paul pour se remotiver. Puis dans 2 Timothée 4, 5, ça nous dit, puis c'est Paul qui est en train de parler à Timothée, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, puis remplis bien ton ministère. » Même si on peut pas dire que Timothée avait un ministère d'évangéliste, mais il avait un ministère d'amener des messages dans des églises, puis il parlait dans le nom de Paul, dans le nom de Dieu, mais il était souvent un porte-parole parce que Paul l'envoyait prêcher dans une église, puis il disait « Va dire telle chose dans telle église. » Puis là, lui, il allait, puis il prêchait dans les églises. Il accompagnait Paul dans ses voyages missionnaires. Mais dans son ministère, il dit « Remplis bien ton ministère, puis fais l'œuvre d'un évangéliste. » Ça veut dire, ton temps libre pour qu'il soit bien rempli, va donc évangéliser. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis c'est un peu un message pour tous les chrétiens, ça. Si tu veux que ton ministère, on a tous comme un service qu'on fait pour Dieu, on est en train de servir Dieu, mais si tu veux bien remplir, là, mais dans des temps libres, va donc porter la parole de Dieu. Va porter des pamphlets. Va parler de Jésus à ta famille ou aux gens du dehors. Ça va faire avancer l'œuvre de Dieu, puis tu vas te ramasser des fruits pour Dieu. Une dernière question pour le message de ce soir. Est-ce seulement les apôtres et les évangélistes qui doivent témoigner de leur foi et qui doivent témoigner ou annoncer le message de l'Évangile? Y a-t-il juste les apôtres et les évangélistes? Non.
Non.
Tous les chrétiens. On va regarder deux passages pour comprendre cette idée-là dans Actes 1-8. Jésus, quand il a promis le Saint-Esprit, il l'a promis à tous ses disciples. Il était 120 environ quand il se réunissait dans la chambre haute. Les 120 ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ça nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que juste les 12 apôtres qui l'ont reçu? Non, les 120 ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça donne aux croyants de recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est d'être rempli puis revêtu du Saint-Esprit. Là, il se passe des choses extérieures. Ça peut être que tu prophétises, tu parles en langue, tu pries pour des malades sont guéris. Il y a toutes sortes de dons qu'on a vus dans les dons spirituels qui se manifestent, puis que ça fait de toi un témoin. Tu commences à parler de Jésus, tu commences à répandre le message, parce que t'as la flamme de Dieu en toi, t'es excité de parler de Dieu, et tu vas en parler. Fait que... Est-ce que juste les 12? Est-ce juste les ceux qui ont des ministères? Non. C'est tous les disciples sont appelés à être remplis du Saint-Esprit et aller être des témoins. Puis il y a un autre passage qui nous parle de que c'était pas juste les apôtres ou les évangélistes qui se mettent la parole. Que tous les disciples dispersés, parce qu'il y a eu une persécution à Jérusalem, l'église de Jérusalem était rendue au-dessus de 5000 personnes qui étaient là dans cette église-là. Au-dessus de 5000. Puis là, ça nous dit qu'il y a eu une persécution, une grosse persécution. Probablement les Romains qui ont persécuté, ont réinvesti Jérusalem, puis qu'il y a eu de la grosse pression contre les chrétiens, que les chrétiens ont été obligés de quitter la ville de Jérusalem. Puis les chrétiens, après ça, ils ont été dispersés dans toutes les villes et les villages environnants. Fait qu'ils ont tous obligés de quitter leur maison, quitter leur travail, quitter leur famille. On voit ce passage-là dans Actes 8, au verset 1. C'était dans le contexte où ce que Paul, il n'était pas encore chrétien, l'apôtre Paul, il s'appelait Saül avant de s'appeler Paul, puis il persécutait les chrétiens. Il allait dans les villes, puis il frappait les chrétiens, il en faisait mourir des chrétiens, il en faisait mettre en prison. Puis ça nous dit que Étienne, qui est un disciple du Seigneur, a été lapidé, puis il est mort. Puis ça nous dit que Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Puis il y a eu en ces jours-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, fait que les Juifs, probablement les Romains avec, persécutaient les chrétiens, que les chrétiens étaient obligés de fuir, tellement que c'était grave dans cette ville-là. Puis ça nous dit, « Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Tous! Il y a juste les 12 apôtres qui ont resté à Jérusalem. Ça veut dire, quand les disciples sont partis, tous les disciples, même si ça faisait un qu'une semaine qu'ils avaient accepté Jésus, ou que ça faisait un an ou deux, sont partis avec les autres. Ils ont été dispersés. Ils ont été chassés. Là, ça nous dit, à cause, là, ils sont dispersés. Il y a des hommes pieux qui ensevelirent Étienne parce qu'il venait de se faire lapider, puis ils le pleurèrent à grand bruit. Là, ça nous dit que Saul, de son côté, il ravageait l'église, il pénétrait des maisons, il arrachait les hommes et les femmes, puis il les faisait jeter en prison. Là, le verset qu'on va peser dans un contexte, là, imaginez-vous là que ça arriverait ici à Beauharnois. Parce qu'on est chrétien, il y a des gens méchants, ils rentrent dans la maison, commencent à vouloir nous battre, à nous garocher dehors de nos maisons, puis qu'on n'a pas le choix, faut fuir. Tous les chrétiens de la ville de Beauharnois seront obligés de fuir. Là, tu te retrouves sans logis, tu te retrouves loin de tous tes biens, tu perds tous tes biens, tu perds tout ce que tu as. Puis là, tu te retrouves ailleurs, nowhere, tu sais pas où tu es rendu, tu sais pas où tu vas aller coucher. Peut-être que en plus, tu as mangé une volée. Tu t'en vas, tu as mangé une volée, fait que moralement, tu files pas. Hein? Qu'est-ce que les disciples ont fait quand ils se sont fait chipper comme ça? Ça nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Partout où ils s'en allaient, ils continuaient à répandre le message de l'Évangile, malgré qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Tu perds tous tes biens, tu te retrouves juste avec le linge que tu as sur le dos, puis peut-être ta Bible en dessous du bras, puis tu te sauves. Puis là, partout où tu vas, ben, tu continues à répandre pareil le message de l'Évangile. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui auraient peur, puis qui n'oseraient plus rien faire, puis peut-être qu'il y en a même qui lâcheraient d'être chrétien. Ils diraient, moi, je renie Jésus, puis je veux plus rien savoir. Mais ça, faut pas faire ça. C'est la pire affaire qu'on peut pas faire. On était mieux de pas le connaître que de le renier. Parce qu'on est en train de renier le Seigneur. On est chrétien, puis c'est pour la vie. On aime le Seigneur, c'est pour la vie. Puis on veut parler de ce Seigneur-là parce qu'on le sait qu'on s'en va dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que c'est juste les apôtres et les évangélistes qui parlaient de Jésus? Non. Tous les chrétiens, que ce soit un nouveau, que ce soit une personne qui se fait 2, 3, 5, 20 ans qui est chrétien, il était dispersé, il allait de lieu en lieu, puis il continuait à répandre le message de l'Évangile. Fait que, comme fin de ce message, je vous encourage tous à entrer dans ce travail-là d'évangélisation. C'est un travail que vous êtes tous appelés à être des témoins. Tous. Puis, peu importe la méthode qu'on utilise, on prend la méthode qu'on a à cœur, mais on est appelé à rejoindre le monde de dehors. Que ça soit passer des pamphlets, parler de bouche à oreille, prier pour eux autres, que ce soit des émissions de radio, des émissions de télévision, de l'Internet, toutes les méthodes sont bonnes. Le but, dans le journal aussi, on l'a déjà fait, de mettre les annonces de plan du salut au complet dans le journal. On a payé pour le faire envoyer. Tout ça pour dire, Dieu nous appelle à le faire. C'est sûr que si on commence à le faire, on va être béni, puis Dieu va nous utiliser pour sauver des âmes. Puis en même temps, on va être en train d'accomplir ce que Dieu nous demande, la grande commission. Puis on ne sait pas, peut-être qu'un jour, qu'il va y avoir des évangélistes qui vont se lever, qui vont devenir évangélistes en ayant le ministère de répandre la bonne nouvelle avec l'onction du Seigneur et les miracles qui l'accompagnent. On va prier. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tout ce que tu nous révèles, Seigneur. Fais de nous des évangélistes, Seigneur, qu'on puisse accomplir le ministère de l'évangélisation, de répandre la bonne nouvelle partout où on passe, dans les magasins, dans les restaurants, dans les rues, dans les parcs, partout, Seigneur. Donne-nous de traîner sur nous des pamphlets pour qu'on puisse répandre la bonne nouvelle par des traités. Seigneur, je sais qu'il y a des milliards de personnes qui ne sont pas sauvées. Je te demande de nous guider, de nous conduire dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Donne à tous de comprendre quelle est leur place, quelle est leur méthode qu'ils doivent utiliser. Puis utilise-nous, Seigneur. Donne-nous d'ouvrir la bouche. Remplis-nous du Saint-Esprit pour qu'on soit équipés de cette puissance qui fait de nous des témoins et qu'on puisse en parler partout ce qu'on passe. Je te remercie de ce que tu vas faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos voisins, dans nos compatriotes, dans notre pays, Seigneur. On te prie de sauver notre pays dans le nom de Jésus-Christ. Amen.